Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 116, Daf Kuf Tet Zain. Bonne écoute et bon limoud.
Zecharim unkevot tmimim ubalemumim. Il est permis d'offrir des mâles, des femelles, des animaux parfaits et infirmes. Nous sautons la parenthèse. Le afouke mechusar ever de l'eau. Cela exclut un animal auquel il manque un membre que cela, Noach, n'a pas utilisé pour offrir comme sacrifice. C'est-à-dire, même s'il est permis, avant l'érection du sanctuaire dans le désert, d'offrir un animal infirme comme sacrifice, mais à la condition que cet animal possède tous ses membres. Amar Rabbi Elazar, minayin le mechusar ever shenesar le bnei Noach. D'où sait-on que même les enfants de Noach, c'est-à-dire les goyim, n'ont pas le droit d'offrir comme sacrifice un animal auquel il manque un membre? Il répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit dans Bereshit Vav, ou Mikol Hachai, Mikol Basar, etc. De tout être vivant, de toute chair, tu feras rentrer des animaux dans l'arche. Amra Torah, la Torah dit, Have Behema Shechayin Rashe Evarin Shela. Le terme ou l'expression Mikol Hachai veut dire, Kachem Dianoach amène des animaux pour les faire entrer dans l'arche, dont le bout des membres est vivant, c'est-à-dire qu'ils sont intacts, ils possèdent tous leurs membres. Forcément, c'est pour pouvoir en utiliser ensuite pour en offrir comme sacrifice, car sinon, si c'était juste pour qu'ils puissent se reproduire après le déluge, ils auraient pu se contenter d'animaux qui ne possèdent pas tous leurs membres. En Lagmara demande, Vedilma al Meute Trefa, peut-être que l'expression Mikol Achai vient exclure un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa. Il n'y a donc aucune prescription concernant les animaux qui ne possèdent pas tous leurs membres. L'Agma répond, Hahu milechayot zera nafka. Ceci, donc le fait que Noach ne devait pas choisir des animaux atteints d'une blessure mortelle qui les rend Trefa, nous l'apprenons de l'expression lechayot zera, qui veut dire pour qu'ils puissent se reproduire ensuite après le déluge. Si nous admettons qu'un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa ne peut pas se reproduire, forcément de cette expression, nous comprenons que Noach n'a pas pu choisir un animal Trefa pour le faire entrer dans l'arche. L'Agma demande, Ha nicha le mandama trefa ena yoledet. Nous comprenons cela selon l'avis qui dit qu'un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa ne peut pas se reproduire. Et là, le mandama trefa yoledet, maïka le memar. Mais selon l'avis qui dit qu'un animal atteint d'une blessure mortelle peut se reproduire, que pourra-t-on dire? C'est-à-dire, puisque nous ne pouvons pas exclure les animaux atteints d'une blessure mortelle qui le rend trefa de l'expression le chayot zera pour qu'ils puissent se reproduire, peut-être que nous avons besoin de l'expression Mikol Hachai de tout être vivant pour exclure et donc pour prescrire à Noach qui ne choisisse pas un animal atteint d'une blessure qui le rend Trefa. Finalement, nous n'avons pas de prescription concernant les animaux qui ne possèdent pas tous leurs membres. L'Agma répond, Ha Amarkra Itra. Voici que le Pasuk dit, lorsqu'il parle de Noach, amène ces animaux avec toi dans la Teva. Ce terme itra veut nous enseigner bedomim lecha que les animaux doivent te ressembler en cela qu'ils sont parfaits. Puisque nous admettons que Noach n'était pas atteint d'une blessure mortelle qui le rentrait pas, il a dû choisir des animaux ayant un état de santé identique, donc aussi qui ne sont pas atteints d'une blessure mortelle qui le rentrait pas. Finalement, nous pourrons employer le terme, l'expression mikol hachai pour exclure les animaux qui ne possèdent pas tous leurs membres. La Gemara demande, Vedilma Noach Goufet Trefa Haba. Peut-être que Noach lui-même était atteint d'une blessure mortelle qui le rendait Trefa. La Gemara répond, c'est impossible. Tamim Ktive, le pasuk dit à propos de Noach, parfait. Forcément donc, il n'était pas atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa. La Gemara demande, Vedilma Tamim Bidrachav. Peut-être que le terme Tamim parfait veut dire qu'il était parfait dans ses chemins, dans sa manière d'agir. C'est-à-dire qu'il était humble et patient, mais ne veut pas dire qu'il n'était pas atteint du blessure mortel qui le rend Trefa. Finalement, nous aurons besoin de l'expression Mikol Hachai pour exclure les animaux atteints du blessure mortel qui le rend Trefa. L'Agma répond, Tzadik Tivé. Il est impossible de dire que le terme Tamim veut dire qu'il était parfait dans ses chemins, parce que le Pasuk emploie déjà le terme de Tzadik à propos de Noach qui veut dire juste, ce qui inclut toutes les bonnes actions. Forcément, le terme de Tamim veut dire qu'il était parfait, qui n'était pas atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa. L'Agmar demande, Vidilma Tamim Bidrachav Tzadik Bemaasav. Peut-être que le terme Tamim parfait veut dire dans ses chemins, sa manière d'agir, c'est-à-dire qu'il était humble et patient, tandis que le terme juste Tzadik, c'est-à-dire qu'il était juste dans les actions qu'il accomplissait. Mais en fait, le pasouk ne veut rien dire concernant son état de santé. L'agma répond, Isalkada atar de noir gouffé trefava, s'il te venait à l'esprit que noir lui-même était atteint du blessure mortel qui le rend trefa, Mika marle le noir, est-il possible de dire qu'Hachem a dit à noir de kvatar aïl shlemim lota aïl, puisqu'il lui a dit d'emmener des animaux avec un état de santé identique à lui. Donc Hachem lui aurait dit de faire rentrer dans l'arche des animaux dans un état de santé identique à lui, donc atteint du blessure mortel qui le rend trefa. Mais des animaux parfaits, tu ne peux pas les choisir pour les faire entrer dans l'arche. Forcément, si HaKadosh Baruch Hu dit à Noir de choisir des animaux avec un état de santé identique à lui, forcément c'est que lui-même n'était pas atteint du blessure mortel qui le rend trefa, donc il devait impérativement choisir aussi des animaux ayant un état de santé identique. Par conséquent, l'expression Mikol Achai viendra exclure des animaux qui ne possèdent pas tous leurs membres. Alors la Gemara demande, ou me'achar de nafkalan me'itecha, maintenant que nous apprenons du terme itra avec toi, que Noah a dû choisir des animaux ayant un état de santé identique à lui, donc n'ayant pas de blessure mortelle qui les rentrait fa, le chayot zera lamali, pourquoi a-t-on besoin de l'expression pour pouvoir se reproduire? Puisque de toute façon, même selon l'avis qui dit qu'un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa ne peut pas se reproduire, de toute façon, nous apprenons d'ailleurs que Noach n'a pas pu choisir des animaux trefa pour les faire entrer dans l'arche. L'agma répond, Maou de Tema, nous avons besoin quand même de cette expression pour pouvoir se reproduire après le déluge, car sans cela, on aurait dit que Itra, le terme de Itra veut dire les tsavta be'alma, que ces animaux te servent de compagnie à filouzaken, à filousaris, même s'ils sont vieux ou châtrés, kamash malan, c'est pour cela que le pasouk ajoute cette expression, l'echayot zera, pour qu'ils choisissent impérativement des animaux qui ont la faculté de se reproduire. La Gemara reprend le passage de la Breta qui dit, tehorim avalot meim, mais il sera possible de sacrifier que des animaux purs et non pas des animaux impurs. Et cela, nous l'avons appris comme nous l'avons vu précédemment d'un pasouk concernant les sacrifices qu'a offert Noach, où le pasouk dit qu'il a choisi des animaux purs. Alors la Gemara s'étonne, umi havut meim utorim baishata, est-ce qu'à l'époque de Noach existait-il des animaux purs ou impurs, puisque la Torah n'avait pas encore été transmise au Mont Sinaï? La Gemara répond, Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, nous lisons selon la note marginale, Meotam ha'atidim litaher. Lorsque le pasouk parle d'animaux purs, c'est-à-dire, il parle d'animaux qui dans le futur seront déclarés purs et permis à la consommation, c'est lorsque la Torah sera transmise au Béni Israël au Mont Sinaï. Voir le Marsha. La Gemara demande, Mena havuyade, d'où est-ce qu'ils ont su quels étaient les animaux purs et quels étaient les animaux impurs? C'est-à-dire, la Torah raconte que lorsque Noach a fait rentrer les animaux dans l'arche, lorsqu'il s'agissait d'animaux impurs, il en a choisi deux par sorte, tandis que lorsqu'il s'agissait d'animaux purs, il en a choisi sept par sorte. Et cela, sur l'ordre d'Hachem, et c'est d'ailleurs de là qu'il a compris que si HaKadosh Baruch Hu lui a demandé de faire rentrer sept par sorte, c'est forcément pour en utiliser pour offrir des sacrifices. En tout cas, la question se pose, d'où savait-il quels étaient les animaux purs et quels étaient les animaux impurs? L'Agma répond que de Rav Frisda, d'Amar Rav Frisda, que Rav Frisda a dit concernant une autre question qui se pose dans Masechet Sanhedrin, à savoir, d'où sait-on que les animaux qui sont rentrés dans l'arche n'étaient pas corrompus, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas accouplés avec des animaux d'une autre sorte? Alors là-dessus, Rav Frisda répond, et cette réponse s'appliquera donc ici, He'eviran lifnei ateva, il a fait passer les animaux devant l'arche, kol she'ateva kol tatan, tous les animaux qui étaient retenu par l'arche, biadoa sheutahor, c'est une chose sûre que cet animal est pur, en hateva koltatan, si ces animaux n'étaient pas retenus par l'arche, biadoa shem tmeim, c'était une chose sûre qu'ils étaient impurs. C'est-à-dire, en ce qui concerne cette question qui se pose dans Maseret Sanhedrin, les animaux retenus par l'arche étaient des animaux qui n'étaient pas corrompus. Ici, dans notre contexte, lorsque l'arche a retenu sept par sorte, ils ont su qu'il s'agissait d'animaux purs qui seront permis à la consommation. Et lorsqu'elle en a retenu que deux, ils ont compris qu'il s'agissait d'animaux impurs. Rabbi Ava Omar, Amarkra le pasouk dit dans Bereshit Zain, concernant les animaux qui sont venus à l'arche, Vehabaim Zachar Unekeva, et les animaux qui sont venus étaient mâles et femelles. Ils sont venus donc vers l'arche. Il explique, Habaim Me'elehem, ceux qui sont venus d'eux-mêmes. C'est-à-dire, seuls les animaux pas corrompus sont venus d'eux-mêmes à l'arche, et des animaux purs, il en est venu sept par sorte, des animaux impurs, il en est venu deux par sorte. La Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit, Amar Mar, Vehakol Karvu Olot. Et tous les sacrifices qui ont été offerts avant l'érection du sanctuaire dans le désert, c'était uniquement des korbanola, des holocaustes. La Gemara constate, Olot in, des korbanola, oui, Shlamim lo, le korban Shlamim, non, il était interdit d'en offrir avant l'érection du sanctuaire dans le désert. La Gemara demande, comment est-ce possible, active pourtant le pasuk dit, dans Shemot Kavdalet, Vaizbechu, Zevachim, Shelamim, Lachem, Parim, etc. Lorsque les Béné Israël s'apprêtaient à recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu a fait offrir des sacrifices, alors le pasuk dit, et ils ont offert des sacrifices, des korban shlamim à Kodesh Baruch Hu, des taureaux. Nous voyons clairement que les Béné Israël ont offert un korban shlamim avant l'érection du sanctuaire dans le désert. La Gemara répond, et là, Emma, plutôt, c'est ainsi qu'il faut comprendre la Braïta. Nous lisons selon la Shetam Kubetset, la kol karvu olot, pour toute l'humanité, c'est-à-dire tout le monde avait le droit d'offrir des korbanolah, velivne noach olot in shlamim lo. Mais en ce qui concerne les enfants de Noach, c'est-à-dire les goyim, ils n'avaient le droit d'offrir que des korbanolah, mais non pas des korban shlamim. Mais lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, il leur a été permis d'offrir un korban shlamim. Et c'est donc cela que la Braïta voulait dire. En ce qui concerne le korbanolah, tout le monde avait le droit d'en sacrifier. Mais en ce qui concerne le Korban Shlamim, il y a en fait une différence. Seuls les Bnei Israël avaient eu le droit de le faire après qu'ils ont reçu la Torah. Mais pour les Goyim, l'interdiction est maintenue. La Gemara continue. Keman de Amar lo karvu Shlamim ben Noach. La Braïta suit donc l'opinion qui dit que les fils de Noach, les Goyim, n'ont pas le droit de sacrifier, d'offrir des Korban Shlamim. Deitmar, car il a été enseigné une discussion. Rabbi Lazar, ve Rabbi Yossi, ve Rabbi Hanina. Il y a une discussion entre Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, fils de Hanina. Chadamar, un des deux dit, Karvu Shlamim ben Noach, que les enfants de Noach, donc les Goyim, ont le droit d'offrir des Korban Shlamim. De Chadamar, tandis que l'autre dit, Lo Karvu, les Goyim n'ont pas le droit d'offrir un Korban Shlamim. Alors la Gemara demande, Maïtama demande à Amar Karvu Shlamim ben Noach, quelle est la raison de l'opinion qui dit que les fils de Noach, les Goyim, ont le droit d'offrir un Korban Shlamim? L'Agma répond, dirtiv, car le pasuk dit dans Bereshit Dalet, Vehevel hevi gamhu mibchorot tsono umechel vehen. Et Hevel a amené lui aussi comme sacrifice des aînés de son menu bétail et de leur graisse. Ezehu davar shechelbo karev le gabe misbeach. Quel est le type de sacrifice dont seule la graisse est offerte sur l'autel? Vehen kulo karev le gabe misbeach. Mais tout le corps n'est pas offert sur l'autel. Heve Omer, Zeshlamim, tu peux le dire toi-même, c'est le Korban Shlamim. Nous voyons donc clairement dans le Passouk que les Goyim, donc avant que la Torah a été donnée, il était permis d'offrir un Korban Shlamim. La Gemara demande, Maïtama demande Amar Lokarvu, quelle est la raison de l'opinion qui dit que les Goyim n'ont pas le droit d'offrir un Korban Shlamim? La Gemara répond, Dirtiv, car le Passouk dit dans Shira Shirim Dalet, Uri Tsafon Uvoiteman. Réveille-toi, vent du nord, et viens, vent du sud, pour propager le parfum délicieux qui émane de ton jardin. Comme Rachel explique dans Shir HaShirim, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse aux Bnei Israël et fait allusion au fait que les Bnei Israël venaient de tous les quatre coins du monde pour offrir des sacrifices à l'occasion des fêtes. Alors, la Gemara interprète le pasouk de la manière suivante. Titnaer Uma Shemaaseh Betzafon, que soit bouleversée la nation dont les actions sont dans le nord, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent offrir des sacrifices qui, dans le sanctuaire, ne peuvent être sacrifiés que dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Autrement dit, la nation qui ne peut offrir que les korbanolah, c'est-à-dire les goyim, vetavo uma shemaaseha betzafon ubedarom, et que vienne à sa place une nation dont les actions sont à la fois dans le nord et dans le sud, c'est-à-dire que vienne les blé Israël, qui peuvent offrir à la fois des sacrifices qui sont sacrifiés uniquement dans la partie nord du sanctuaire, donc des korbanolah, et aussi ceux qui peuvent être aussi sacrifiés dans la partie sud de la cour du sanctuaire, comme le korban shlamim. Donc ici, le pasouk fait allusion au fait que les goyim ne peuvent offrir que des korbanolah, tandis que les bnei Israël peuvent offrir aussi un korban shlamim. Alors la Gemara demande, Umar Nami, et l'autre avis aussi, qui dit que les goyim ne peuvent pas offrir de korban shlamim. Active ou Mechel Behem, pourtant le pasouk dit dans Bereshit Dalet, et de leur graisse. Forcément, les goyim peuvent offrir aussi un korban shlamim dont seules les graisses sont offertes sur l'autel? La Gemara répond, ce que le pasouk veut dire, Mishman Nehem Didhu, que Hevel a choisi les animaux les plus gras pour les offrir comme sacrifice. Mais en fait, il n'a offert que des korbanola. La Gemara demande, Umar Nami Haktiv Uritzafon, et l'autre avis qui dit que les goyim peuvent offrir un korban shlamim, pourtant le pasouk dit dans Shirashirim, réveille-toi le nord. Apparemment, le pasouk veut dire, comme nous l'avons expliqué, que les goyim ne peuvent offrir que le korban ola. La Gemara répond, Hahu bekibbutz galuyot hudirtiv. Le pasouk en fait parle du retour de l'exil et veut dire comme suit, lève-toi vent du nord pour amener ceux qui ont été éparpillés dans la moitié nord du globe et réveille-toi vent du sud pour ramener ceux qui ont été éparpillés dans la partie sud du globe. En la Gemara demande, active pourtant le pasouk dit dans Shemot Yud, Vayomer Moshe Gamata Titen Biadenu Zvachim Veolot Veasinu Lachem Elokenu. Et Moshe a dit à Paro, lorsqu'il refusait de laisser sortir les animaux de Bnei Israël d'Égypte, toi aussi tu nous donneras des sacrifices et des korbanola qu'on offrira pour Hachem notre Dieu. Apparemment le terme de Zvachim veut dire korban shlamim. Nous voyons que même avant que les Bnei Israël ont accepté la Torah, ils pouvaient offrir des korban shlamim. La Gemara répond, Zvachim le'achila. En fait, le terme de Zvachim ne veut pas parler de sacrifice, mais veut dire des animaux qu'on sacrifiera rituellement pour la consommation, ve'olot la'akrava, et à part ça, des animaux qui seront désignés comme korbanola pour être offerts comme sacrifice. Alors, la Gemara demande, ve'active pourtant le pasouk dit dans Shemot Yutret, ba'ikar Yitro, Choten Moshe, Ola, Uzvachim, etc. Et Yitro, le beau-père de Moshe, a pris un korbanola et des sacrifices qu'il a offerts. Apparemment, le terme de Zvachim veut dire korban shlamim. Nous voyons que même avant que les Bnei Israël ont accepté la Torah, ils ont pu offrir des korban shlamim. La Gemara répond, Hahu la trar matan Torah odirtiv. Ce pasouk parle après que les Bnei Israël ont accepté la Torah. Dès lors, les Bnei Israël ont pu offrir un korban shlamim. Alors, la Gemara demande, Hanicha le mande amar Yitro achar matan Torah haya. Nous comprenons cela selon l'avis qui dit que Yitro est arrivé chez les Bnei Israël après qu'ils ont accepté la Torah, et là le Manda Amar Yitro Kodem Matan Torah Haya. Mais selon l'avis qui dit que Yitro est venu dans le désert avant que les Bnei Israël ont accepté la Torah, Maïka le Memar, que pourra-t-on dire? Comment se fait-il qu'il a pu sacrifier des Korban Shlamim? Des Itmar, car il a été enseigné une discussion, Bene Rabbi Chia et Rabbi Yushua Ben Levi, entre les enfants de Rabbi Chia et Rabbi Yushua Ben Levi. Chad Amar, un des deux dit Yitro Kodem Matan Torah Haya, que Yitro est venu dans le désert avant que les Bnei Israël ont accepté la Torah. De Chad Amar Yitro Achar Matan Torah Haya. Tandis que l'autre dit que Yitro est arrivé dans le désert après que les Bnei Israël ont accepté la Torah. Alors la Gemara répond, le Mande Amar Yitro Kodem Matan Torah Haya, selon l'avis qui dit que Yitro est arrivé dans le désert avant que les Bnei Israël ont accepté la Torah, Kassavar pense, Shlamim Ikrivu Bene Noach, que les enfants de Noach, les Goyim, avaient le droit d'offrir même des Korban Shlamim. Alors la Gemara dit, Ketanaï, cette discussion à savoir si Yitro est venu dans le désert avant ou après que les Bnei Israël ont accepté la Torah, dépend d'une discussion entre des Tanaïm. En effet, il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Shemot Yutret qui dit « Baishma Yitro Kohen Midian » etc. Et Yitro, le prêtre de Midian, a entendu. Alors la question se pose « Mashmoa Shama Uba Venit Gayer » quelle nouvelle a-t-il entendu pour venir se convertir? La braïta répond « Rabbi Yeshua Omer Milchemet Amalek Shama » il a entendu la guerre que les Bnei Israël ont fait contre Amalek et qui était miraculeuse « Share Ktiv Betido » car juste avant ce pasouk, il est écrit dans Shemot Yudzaïn, Vayachalosh Yoshua et Amalek vetamo lefiharev, et Yoshua a affaibli Amalek et son peuple par le glaive. Donc apparemment, c'est à la suite de cette guerre que Yitro est venu dans le désert. Rabbi Elazar Amodai Omer, Matan Torah Shamaouba. Il a entendu que les Bnei Israël ont accepté la Torah, et c'est pour cela qu'il est venu. Shekshenitna Torah l'Israël. Lorsque la Torah a été donnée au Bnei Israël, Haya kolo holech misof haolam ba'atsofo, le bruit de la voix d'Hachem allait du bout du monde à l'autre. Vechol malche ovde kochavim, achazatan re'ada be'echalehen, et tous les rois des goyim ont été pris de tremblement dans leur palais. Ve'amru shira, et ils ont chanté des louanges d'Hachem. Sheneemar, car le pasouk dit dans Teilim Kaftet, ou be'echalo kulo omer kavod. Et dans son palais, donc chaque roi dans son palais, il disait les honneurs d'Akadosh Baruch Hu. Nidkabtsu kulam etzel Bilam Arasha. Ils se sont tous rassemblés et se sont présentés devant Bilam le mécréant. Ve'amroulo. et lui ont posé la question, Makol Hehamon Asher Shamanu, quel est ce vacarme que nous avons entendu, Shema Mabul Balaolam, est-ce que le déluge vient de nouveau anéantir le monde? Comme le Passouk dit, toujours dans le même chapitre, Hashem Lamabul Yashav, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu retourne emmener le déluge pour détruire le monde? Amar Lahem, Bilam leur a répondu, Vayeshev Hashem Melech Leolam, et Hashem résidera comme roi pour toujours. Puisqu'il n'y a pas de roi sans peuple, forcément c'est cela que ça veut dire. Kvar Nishba Akadosh Baruch Hu She'eno Mevi Mabul Laolam, Akadosh Baruch Hu a déjà fait le serment qu'il n'emmènera plus le déluge pour détruire le monde. Amroulo, les rois lui ont demandé, Mabul Shel Maim Eno Mevi, il est vrai qu'il a juré de ne plus emmener un déluge d'eau. Aval Mabul Shel Esh Mevi, peut-être qu'il peut amener un déluge de feu, et c'est peut-être cela qu'il est en train de faire chez Nehemar, car le Passouk dit dans Yeshaya Samervav, Ki va Esh Hashem Nishpat, car Hashem applique la justice avec le feu. Amar Lahen, Kvar Nishba She'eno Mashrit Kol Basar, il a déjà juré qu'il ne détruirait plus toute chair, c'est-à-dire qu'il ne détruirait plus toute l'humanité. Même s'il applique la justice par le feu, c'est un jugement local qu'il appliquera, et non pas pour détruire tout le monde. Alors la question se repose, « Uma kol he'amon hazeh she'shamanu » Quel est ce vacarme que nous avons entendu? Amar Lahem, il leur a répondu, « Chemda tova yeshlo bebet genazav » Il a quelque chose de bon et de précieux dans ses trésors, « Shaita gnuza etzlo tat kead dorot kodem shenivra olam » et qui a été caché précieusement pendant 974 générations avant la création du monde. Si on y ajoute les 26 générations qui ont existé depuis Adam Rishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, nous avons en tout 1000 générations. C'est cela que le Passouk dit dans Tehilim Koufé, Davar Tziva l'élève d'or. Il a ordonné une chose, donc la Torah, au bout de 1000 générations. Ubikesh Litnah Levanav, il a voulu donner cette chose précieuse à ses enfants, les Bnei Israël, chez Nehemar. Et c'est cela que le Passouk dit dans Tehilim Kaftet, c'est la réponse de Bilam, Hashem Oz Leamoyiten. Hashem a donné la force ou la vigueur à son peuple. Miad patru kulam v'amru. Immédiatement, tout le monde, donc tous les rois qui étaient chez Bilam, ont dit la louange suivante. Hashem yevarech et amo bashalom, qu'Hashem bénisse son peuple avec la paix. Rabbi Eliezer Omer, kriat yamsuf shama uba. Il a entendu l'histoire que la mer rouge s'est fendue pour laisser passer les Bnei Israël. Chez Nehemar, car le Passouk dit dans Yoshua He, après que le Jourdain s'est fendu pour laisser passer les Bnei Israël. Le Passouk dit, Vayihi kishmoa kol malchei ha'emori, etc. Et lorsque tous les rois du Hémori, qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, et tous les autres rois qu'Hachem a asséché le Jourdain pour faire passer les Bnei Israël, ils ont perdu tout esprit de vigueur pour s'élever contre les Bnei Israël. Nous voyons donc que même le fait que le Jourdain s'est asséché a été entendu par tout le monde. Nous pouvons comprendre que lorsque la mer rouge a été fendue pour laisser passer les Bnei Israël, cela a fait beaucoup de bruit, et c'est cela que Yitro a entendu. Ve'af Rachav Hazona Amra le Shluchei Yehoshua, et même Rachav, la prostituée de la ville de Yericho, a dit aux émissaires de Yehoshua, ce que le Passouk dit dans Yehoshua Bet, Kishamanu et Asher Hovich Hashem et Me Yamsouf, etc. Quand nous avons entendu qu'Hashem a asséché l'eau de la mer rouge pour laisser passer les Bnei Israël. Nous voyons clairement donc que le passage de la mer rouge a fait beaucoup de bruit, et c'est donc cela que Yitro a entendu, et il est venu se convertir. Alors la Gemara demande, Maishana Atam, pourquoi là-bas dans Yoshua He, lorsque le Passouk raconte que les rois qui se trouvaient en Eretz Israël ont été atterrés par le fait que les Bnei Israël ont traversé le Jourdain, le Passouk dit « V'lo hayabam od ruach » Ils n'avaient plus d'esprit, de vigueur pour s'élever contre les Bnei Israël. « Umay shana acha » Et pourquoi ici, dans Yoshua Bet, lorsque Rachav, la prostituée, s'adresse aux émissaires de Yoshua, de Kamar, le Passouk dit, donc c'est elle qui dit « V'lo kama od ruach beish » Et un esprit ne s'est pas élevé dans l'homme. Ce qui veut dire aussi que tous les hommes ont perdu tout esprit de vigueur pour s'élever contre les Bnei Israël. En tout cas, pourquoi cette différence dans la formulation de la phrase?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Kuf Tetzain Amud Bet. La Gemara répond, que lorsque Rachav a dit qu'un esprit ne s'est pas élevé chez l'homme, elle a voulu dire d'afilu akshuye namilu akshu, les hommes ont perdu même le pouvoir d'avoir une érection, ils étaient devenus impuissants. Alors la Gemara demande umena yada, et d'où le savait-elle? La Gemara répond de amarmar en lecha kol sar venagid, il n'existait pas de chef ou de personnalité chez l'oba al Rachav Azona qui n'a pas eu de relation avec Rachav la prostituée. Amrou, les Chachamim ont dit, bat eser shanim aitak shatsu Israël mimitzraim, elle avait l'âge de 10 ans lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Vezanta kol arba'im shana shayu Israël bamidbar, elle s'est adonnée à la prostitution pendant les 40 ans que les Bnei Israël sont restés dans le désert. Achar chamishim shana, après qu'elle a atteint l'âge de 50 ans, nidgaira, elle s'est convertie. Amra, elle a dit, yehe machulli, que mes péchés de la prostitution me soient pardonnés, bishar chevel chalon upishtim, par le mérite de la corde, de la fenêtre et du lin que j'ai employé pour sauver les émissaires de Yehoshua lorsqu'ils sont venus espionner le pays. D'ailleurs, il est même enseigné dans une braïta que c'est justement avec ces trois articles-là, la corde, la fenêtre et le lin, qu'elle commettait ses péchés. Et donc, lorsqu'elle a utilisé ces articles pour une bonne action, pour sauver les espions, elle a demandé que ses péchés lui soient pardonnés par le mérite de cette bonne action qu'elle a faite en utilisant les mêmes articles qu'elle utilisait pour commettre ses péchés. Amarmar, la Gemara reprend le passage de la Breta qui dit « Vovde kochavim bizman azer reshain la sotken » et les goyim, aujourd'hui, à notre époque, ont le droit de faire ainsi, d'offrir un sacrifice sur un autel privé. La Gemara demande « Menan emile, d'où sait-on ces choses-ci » La Gemara répond « Tanoura banan, car nos chachamim ont enseigné dans une Breta qui interprète le pasouk dans Vaikra Yudzaïn » concernant l'interdiction de sacrifier un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Le pasouk dit « Daber el Bnei Israël » parle au Bnei Israël. « Bnei Israël metzuvin al shrut echut » les Bnei Israël ont l'ordre concernant la sacrification à l'extérieur du sanctuaire. Donc, ils ont l'interdiction de sacrifier un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. « Ven avde kochavim metzuvim al shrut echut » tandis que les goyim n'ont pas ce commandement concernant les sacrifices à l'extérieur du sanctuaire. Ils ont donc le droit de sacrifier un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Le Fikar, c'est pourquoi Kol echad ve'echad boneno bama le'atzmo, chacun des goyim a le droit d'ériger un autel pour lui, ou makriv aleha kol ma she'irtze, il peut offrir dessus tout ce qu'il veut. Amar Rav Yaakov bar Acha Amar Ravasi, asur le'sayan ve'la'asot shlichutan. Cependant, il est interdit de les aider activement ou de leur faire à leur place, c'est-à-dire si un goy demande à un Israël d'offrir pour lui un sacrifice sur un autel extérieur, il sera interdit de le faire. Amar Rabba, ou le Orin ou le Hu, Charé. Cependant, il sera quand même permis de leur enseigner la loi et de leur dire comment offrir un sacrifice. Kiha de Ifra Rumiz, Ime de Shavur Malka, comme l'histoire où Ifra Rumiz, la mère du roi Shavur, Shadra Kurbena le Rabba, a envoyé un animal comme cadeau à Rava. Shalchale, elle lui a aussi envoyé le message suivant, Askuhani Aleh Leshem Shamaim, offrez cet animal pour Hachem en tant que sacrifice. Amar lehu le Rav Safra ou le Rav Acha Bar Huna, il a dit à Rav Safra et Rav Acha, fils de Huna, Zilu Vedavru Tre Ulme Gulae, allez prendre deux jeunes hommes du même âge, du fait qu'ils ont le même âge. Cela ajoutera la beauté du service de l'offrande du sacrifice. Vechazu hecha de maskaya masirton, et allez chercher un endroit où la mer ou le fleuve se sont retirés pour laisser de la terre ferme. Ainsi, c'est un endroit qui n'a jamais été travaillé, car pour l'autel, il faut utiliser des pierres ou la terre qui n'a jamais été utilisée par l'homme. Vechaklu tzivecha de te, et prenez du bois nouveau qui n'a jamais été utilisé. Vapiku nura mimara chadta, et faites sortir du feu en utilisant une pioche nouvelle qui n'a jamais été utilisée. Et ainsi, Veaskuha Nialeh Leshem Shamaim, et faites offrir donc cet animal comme sacrifice pour Hachem. Amarle Abaye, Abaye lui a dit à Rava, Keman, selon qui dis-tu cela, qu'il faut utiliser quelque chose de nouveau pour l'autel et pour offrir le sacrifice? Il répond que Rabbi Lazar ben Shamua. Cela suit l'opinion de Rabbi Lazar ben Shamua de Tania, car il est enseigné dans une braïta qui commence par présenter la juxtaposition dans Vaikra Aleph de l'autel sur lequel on brûle les sacrifices et le bois qu'on employait pour les brûler. Et c'est pour cela donc que nous les comparons. Alors, Rabbi Lazar ben Shamu Amer, ma misbeach shelo ishtamesh bo idiot, de même que l'autel n'a jamais été utilisé par un profane, af etzim shelo ishtamesh bayan idiot, ainsi le bois employé pour brûler les sacrifices doit être du bois qui n'a jamais été utilisé par un profane. Alors la question se pose, veha modé Rabbi Lazar ben Shamu abebama, pourtant Rabbi Lazar ben Shamu est d'accord qu'en ce qui concerne un autel privé, cette restriction ne s'applique pas, de Tania, car elle est enseignée dans une braïta. Cette braïta interprète les différents psukim concernant l'achat de la grange de Arnan qui a servi à la construction du Beit HaMikdash. En la braïta dit, Katou vechadomer, un pasuk dit dans Divrei Hayamim, Alef Perek Kaf Alef, Vaiten David le Arnan Bamakom, Shikle Zahav Mishkal Sheshmeot. Et David a donné à Arnan pour l'endroit, l'emplacement en question, donc sa grange, un poids de 600 shekels d'or. Et ailleurs, dans Shmuel Bet, Perek Rav Dalet, Uktiv, le pasuk dit, Vayiken David et Agoren bet Abakar bekesef shkalim chamishim. Et David a acheté la grange et le gros bétail avec une quantité de 50 shekels d'argent. Donc, un pasuk parle de 600 shekels d'or, tandis que l'autre pasuk parle de 50 shekels d'argent. Haketzad, comment va-t-on appliquer ces deux psukim pour qu'il n'y ait pas de contradiction? Nous lisons selon Rashi, mais comme Mizbeach Bechamishim, l'emplacement de l'autel a été acheté avec 50 pièces d'argent, Becholabait Bechesh-Meot, tandis que l'emplacement de tout le sanctuaire a été acheté avec 600 shekels d'or. Rabbi Omer Bechem Abayosi Bendostai, Gava Mikol Shevet Chamishim, il a encaissé de chacune des 12 tribus 50 pièces d'argent, Shehem Sheshmeot, en tout, ça a fait donc 600 pièces. Nous lisons toujours selon Rashi, Rabbi Elazar ben Shamu Omer. C'est ainsi qu'il faut interpréter le pasouk dans Shmuel Bet, Perek Havdalet. Alors, lorsque le pasouk dit, Vayiken David et Agoren, et David a acheté la grange, c'est en fait pas avec l'argent mentionné dans ce pasouk qui est la somme de 50 pièces, mais plutôt que de Mefaresh Bainyan, comme c'est expliqué à ce sujet dans Divrei Hayamim Aleph Perek Raf Aleph, qui dit, Vayiten David le Aravna, Bamakom Shikle Zahav Mishkal Sheshmeot. Et David a donné à Aravna pour l'endroit qui va servir pour la construction du sanctuaire un poids de 600 shekels d'or. Aval Habakar Laola Vamorigim Ukle Habakar Laetzim Bekesef Shkalim Chamishim. Mais le gros bétail qui a servi pour l'offrande d'un sacrifice et les ustensiles qui servaient à broyer la paille et les autres ustensiles de l'attelage du gros bétail qu'il a utilisé pour le bois, tout cela, il a acheté avec 50 shekels d'argent. Dirtiv, comme le pasouk dit plus haut, Vayomer Ravna el David, Yikar veyaal, Adoni hamelech atov veenav, Re'e habakar laola, Ve'amorigim uchle habakar laetzim. Et Aravna dit à David, que mon maître le roi prenne et offre comme sacrifice ce qui plaît à ses yeux, vois j'offre le gros bétail pour un corbanola et l'ustensile qui sert à broyer et les autres ustensiles de l'attelage du gros bétail, je l'offre pour le bois, pour l'offrande du sacrifice. En tout cas, nous voyons que David Ameler a pu utiliser des ustensiles usagés pour le bois qui a servi à l'offrande des sacrifices. Et puisque c'est Rabbi Elazar ben Shamua qui dit cela, forcément nous devons dire qu'en ce qui concerne l'autel privé, il est d'accord qu'il n'est pas nécessaire de prendre spécialement du bois neuf. L'Agmar répond, Rava Amar Lecha, Rava te répondrait, Hatam Nami Bechadete, là-bas aussi il s'agissait d'ustensiles neufs qui n'avaient jamais été utilisés. L'Agmar demande, Mai Morigim, que veut dire le terme Morigim? L'Agmar répond, Amaroula, Mita Shel Turbal, c'est un ustensile qui s'appelle Mita Shel Turbal. Alors l'Agmar demande, Mai Mita Shel Turbal, quel est cet ustensile qui s'appelle Mita Shel Turbal? L'Agmar répond, Amar Abaye, Isa de Karkesa. C'est un ustensile qui s'appelle Isa de Karkesa, de Daishan Dishae, que ceux qui battent le blé et broient la paille utilisent. Il s'agit vraisemblablement d'une lourde planche de bois qu'on attelle au bétail. Cette planche est rainurée et elle est hérissée de pieux ou de couteaux qui servent à broyer la paille. En Ramar Abaye, mais Ekra, de quel pasouk est-ce qu'on sait que le terme de morag veut dire cet ustensile qui sert à broyer la paille? Il répond, nous l'apprenons du pasouk dans Yeshaya Mem Alef qui dit, Hine samtich le morag charut chadash bal pipiot. Je t'ai transformé en morag, c'est donc ce fameux ustensile rainuré et neuf et qui a des tranchants. Nous voyons donc que ce morag en question est un ustensile à tranchants qui sert donc à broyer quelque chose. Il s'agit donc finalement de cet ustensile qui sert à broyer la paille. Makrele Rava Lebere. Rava a enseigné les psukim à son fils, Veramele Krayadade, et a opposé les psukim que nous avons vus précédemment. K'tiv, d'une part, il est écrit dans Divrei Hayamim Alef Perek Afalef, Vaiten David l'Arnan, etc. Et David a donné à Arnan pour l'endroit un poids de 600 shekels d'or. Uchtiv, et ailleurs, dans Shmuel Bet Perek Avdalet, il est écrit Vaiken David, etc. Et David a acheté la grange et le gros bétail avec 50 shekels d'argent. Haketzad, comment accomplit-on ces deux psukim pour qu'il n'y ait pas de contradiction? Il répond Gove Mikol Shevet Veshevet Hamishim. Il a encaissé de chacune des 12 tribus 50 pièces d'argent. Shehem Sheshmeot, il est arrivé donc à une somme totale de 600 pièces. La Gemara demande va kate kashana dade. Pourtant, les deux psukim se contredisent toujours, car hatam là-bas dans Shmuel Bet Kesef, le pasuk parle de pièces d'argent. Hacha ici dans Divrei Hayamim Zahav, le pasuk parle de pièces d'or. La Gemara répond et là hachika amar, c'est plutôt cela que le pasuk a voulu dire. Gove Kesef bemishkal Sheshmeot Zahav, il a encaissé de l'argent, donc des 12 tribus, pour arriver à une somme totale ou à un poids de 600 pièces d'or. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Kodashim Kalim Nechalim Bechol Machane Israël, les sacrifices d'une sainteté légère étaient consommés dans tout le camp des Bnei Israël. La Gemara dit là-dessus Amaravuna Bechol Mekomot Israël, dans tous les endroits où les Bnei Israël se trouvaient, apparemment, même s'ils se trouvaient en dehors du camp, il était possible d'y consommer les sacrifices d'une sainteté légère. Nous sautons les mots suivants selon l'Ashitam Koubetset. Et Tive, Rav Nachman, le Ravuna, ou Machanot Bamidbar, le Havaï, n'y avait-il pas de camp dans le désert, de manière à ce qu'en dehors de ceux-ci, il était interdit de consommer la viande des sacrifices? Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta, Keshem chez Machane Bamidbar, de même qu'il existait des camps dans le désert, car Machane Berushalaim, il existait aussi des camps dans la ville d'Yerushalaim. Mirushalaim le Harabait Machane Israël. À partir de l'entrée de la ville d'Yerushalayim jusqu'au mont du Temple, c'était l'endroit considéré le camp des Bnei Israël. Mais Harabait Leshar Nicanor Machane Leviya, à partir du début du mont du Temple jusqu'à la porte de Nicanor, qui était l'entrée de la cour du sanctuaire, c'était le camp des Leviim. Mikan Ve'elach Machane Shrina, à partir de là, donc à partir de la cour du sanctuaire, c'est ce que l'on appelle le camp de la présence divine. Ve'hen hen Kelaim Shebamidbar, et ceci était représenté par les tentures de la cour du sanctuaire dans le désert. Nous pouvons donc déduire de là que de même que la muraille du Yerushalayim était la limite du camp des Israël, il y avait forcément une limite au camp des Israël dans le désert. L'Agma répond, et là plutôt Emma, c'est cela que Rav Huna voulut dire, Bechol Makom Machane Israël, n'importe où, dans n'importe quelle situation, même lorsqu'il était en voyage, c'était appelé le camp des Israël. Somme Maseret Zvachim Daf Kup Tetzayin Amud Bet, au milieu de la cinquième ligne du bas de la page. La Gemara avait repris le passage de la Mishnah qui dit que lorsque les Bnei Israël se trouvaient dans le désert, les sacrifices d'une sainteté légère pouvaient être consommés n'importe où dans le camp des Israël. Là-dessus, Rav Huna avait ajouté, dans tous les endroits où se trouvaient les Israël, la Gemara avait compris que cela voulait dire que même si un Israël était sorti du camp, il pouvait consommer le sacrifice à cet endroit, et cela comme les commentaires l'expliquent, car les nuées qui protégeaient les Bnei Israël s'étendait même pour protéger ceux qui sortaient du camp. Finalement donc, on pouvait dire que n'importe où, dans le désert où se trouvait Israël, cet endroit faisait partie du camp d'Israël. La Gemara demande, c'est impossible, car il existe une braïta qui dit que de même qu'il existe les camps dans le désert, ceux-ci existaient aussi dans la ville de Yerushalayim. Donc, nous pouvons comprendre que de même que le camp d'Israël avait une limite à Yerushalayim, c'était la muraille. Il en était de même pour le camp qui se trouvait dans le désert. C'était l'endroit où résidaient les Bnei Israël à ce moment. La Gemara a répondu, plutôt c'est cela que Rav Huna a voulu dire, que n'importe où se trouvait le camp d'Israël, le sacrifice pouvait être consommé. C'est-à-dire que même lorsque le camp d'Israël était en voyage, ils pouvaient amener avec eux les sacrifices d'une sainteté légère, et lorsqu'ils campaient à nouveau, ils pouvaient à nouveau les consommer. Voir le Olat Shlomo, la Gemara demande, Pshita, c'est une chose évidente. Étant donné qu'ils se trouvent toujours dans le camp d'Israël, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas consommer le sacrifice. La Gemara répond, Maou de Teman aurait pu penser dire, If Selubiotse, que les sacrifices ont été invalidés car ils sont sortis du camp. En effet, puisque le sanctuaire est démonté, donc le camp qui s'appelle le camp de la présence divine n'existe plus, tous les camps sont annulés. Par conséquent, nous pouvons considérer que le sacrifice est sorti de l'endroit où il est permis de le consommer. Kamash Malan, c'est pour cela que Rav Huna vient nous enseigner que même si le sanctuaire est démonté, cependant, tant que le sacrifice reste dans le camp d'Israël en voyage, il pourra être consommé lorsque les Bnei Israël camperont à nouveau. La Gemara demande, Vehema Achinami, peut-être qu'effectivement le sacrifice est invalidé, car étant donné que le camp de la présence divine n'existe plus, nous pouvons considérer que tous les camps n'existent plus, par conséquent le sacrifice est sorti de l'endroit où il est permis de le consommer. La Gemara répond à Makra, le Pasuk dit dans Bamid Barbet, Venasa Ohel Moed, et le sanctuaire voyagera. Il sera porté donc par les Lévi'im. Nous pouvons déduire de la manière dont s'exprime le Pasuk que Afalpi Shenasa, bien que le sanctuaire est en voyage, Ohel Moedou, il est toujours considéré comme étant sanctuaire. Par conséquent, même le camp de la présence divine peut être considéré comme existant encore. Donc les trois camps existent et le sacrifice n'est donc pas sorti des trois camps. Il sera donc permis de le consommer lorsque le Bnei Israël camperont à nouveau. Nous avons fini sur le shiur de Masechet Zvachim Daf Kuf Tet Zayin. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Kuf Yud Zayin. Nous commençons Daf Kuf Tet Zayin Amud Bet à la fin de la quatrième ligne du bas de la page. Nous avons vu précédemment une braïta que les trois camps qui existaient dans le désert existaient aussi dans la ville de Yerushalayim. Donc, à partir des murailles de Yerushalayim jusqu'au mont du Temple, c'était ce que l'on appelle le camp d'Israël, dans lequel les lépreux n'avaient pas le droit de pénétrer. À partir des murailles du mont du Temple jusqu'à l'enceinte de la cour du sanctuaire, c'est ce que l'on appelle le camp des Lévi'im, dans lequel tout celui qui est devenu impur par un écoulement provenant de son corps, comme celui qui a émis de la semence, ou bien la femme en période de menstruation, ou bien celui qui a l'impureté du zav causée par trois écoulements d'un liquide non séminal, n'ont pas le droit d'y pénétrer. Et le troisième camp, donc c'est à partir de la muraille de la cour du sanctuaire vers l'intérieur, c'est le camp de la présence divine, où celui qui est impur par contact d'un cadavre humain ou toute autre impureté causée par contact, n'ont pas le droit de pénétrer. En la Gemara dit, Tanya, il est enseigné dans une braïta, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Odacher et Taïta, il existait un autre type de camp supplémentaire. Nous lisons selon la Shittam Kubetset, Vezrat Nashimhi, il s'agit de la cour des femmes. Comme la Mishnah l'explique dans Masechet Kelim Perek Aleph Mishnachet, les Chachamim ont institué que ceux qui sont impurs par contact d'un cadavre humain n'avaient pas le droit de pénétrer à partir de la cour des femmes qui précède la cour du sanctuaire. Velo hayu onchimalea, cependant, ceux qui pénétraient tout en étant impurs par contact d'un cadavre humain n'étaient pas punis lorsqu'ils pénétraient dans cette cour, étant donné que cette interdiction n'était que midera banan. Ou beshilo, lo hayu elashne machanot bilvad, et dans la ville de Shiloh, il n'y avait que deux camps. Alors la Gemara demande, heminayu lo hava, lequel des trois camps n'existait pas dans la ville de Shiloh? La Gemara répond, Amar Rabba, Mistabra de Machane Leviya Havai. Il est logique de dire que le camp appelé le camp des Lévi'im existait dans la ville de Shiloh, et c'est donc le camp d'Israël qui n'existait pas là-bas. De Is Al-Kadatach Machane Leviya Lo Havai, car s'il te vient à l'esprit que le camp des Lévi'im n'existait pas à Shiloh.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com. Gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.